Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une nouvelle chronique du Pays Toulousain. Bonjour Aline Thomazin.
Bonjour Sébastien.
Et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Henri Pradalier. Bonjour Monsieur Pradalier.
Bonjour Sébastien.
Alors Monsieur Pradalier est maître de conférence émérite à l'université Jean Jaurès. Il a eu un champ de recherche et d'enseignement autour de l'art, l'architecture, les décors et l'histoire médiévale plus généralement. Et nous allons aborder avec lui aujourd'hui un épisode qui va un peu nous distraire du XVIIIe siècle. Nous allons partir quelques siècles en arrière, en 1096, et nous sommes dans la basilique Saint-Cernin.
Et nous sommes en cette fin de XIe siècle dans la basilique Saint-Cernin, et le pape est là, et le pape va vraiment engager une cérémonie pontificale de consécration de l'édifice. Est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que c'est exact?
Non, c'est très bien.
Merci.
Oui, en effet, c'est une cérémonie fastueuse. Le pape est là, avec une partie de la cour pontificale, 16 prélats qui l'accompagnent pour consacrer avec lui, comme co-consécrateur, la basilique Saint-Cernin en cours de construction et la table d'autel. Et tout cela se passe évidemment dans un contexte fastueux, dans l'encens, l'or, les cierges, l'exposition des reliques la veille, la prière toute la nuit. Le comte de Toulouse est là, sa famille est là, les habitants sont là. C'est une très très grande cérémonie au cours de laquelle d'ailleurs le pape doit remplir toute une série de fonctions pour consacrer l'édifice.
Il y a un rituel qui est particulier.
Absolument, c'est un rituel de consécration que l'on connaît bien parce qu'il a été décrit 6 ans avant 1096 par Yvon de Chartres dans un de ses sermons. Et la cérémonie est une cérémonie très longue et dans le fond assez spectaculaire puisque le prélat consécrateur doit faire le tour de l'édifice, frapper 3 fois aux portes pour qu'on lui ouvre les portes, ensuite tracer en diagonale d'un angle ouest à un angle est du bâtiment, écrire l'alphabet latin, dans l'autre diagonale l'alphabet grec. Ensuite, il s'approche de l'autel et il consacre l'autel. Cela nous donne une idée d'ailleurs de l'état d'avancement des travaux de la basilique à ce moment-là.
Oui, parce qu'on ne consacre pas forcément un édifice quand il est terminé.
Non, ça, c'est très souvent les consécrations ont eu lieu avant que les édifices ne soient achevés. Et souvent, il a pu y avoir 2 consécrations, parfois 100 ans plus tard, quand le monument était achevé.
Donc c'est quand l'autel principal est installé, quand le lieu vraiment de prière est installé.
Oui.
Et à Saint-Cernin, sur le plan matériel, on est un petit peu en quel état d'avancement?
Alors là, on a des points de repère assez précis dans l'architecture du bâtiment. On est assuré que toute la partie orientale de la basilique est terminée. Et j'emploie le mot de basilique à tort parce qu'elle n'est devenue basilique qu'au XIXe siècle. Donc de l'église est terminée, j'entends par là tout le chevet, c'est-à-dire l'abside, le déambulatoire, les chapelles rayonnantes, les bras du transept, la croisée du transept et les 3 travées orientales de la nef qui sont terminées et voûtées. Le reste de l'édifice est en chantier. Mais du fait que le pape est obligé de venir frapper aux portes, cela nous permet d'imaginer, et ça se constate dans l'architecture, que le pourtour de l'édifice a été construit. C'est un cas fréquent.
Il n'y a pas l'élévation, mais on a déjà les bases.
Voilà, on délimite tout de suite les limites de l'édifice pour que les choses soient bien claires. Par contre, les supports à l'intérieur sont loin d'être achevés et ils sont terminés à des hauteurs différentes. Et ce qui nous permet de le constater à Saint-Cernin, c'est lorsqu'on voit progressivement disparaître la pierre.
au profit de la brique.
Tant qu'il y a brique et pierre, oui. On est dans des parties qui sont 11e, 12e. Mais lorsque la brique est partout et systématiquement utilisée, on est dans des périodes plus tardives, à partir du 13e siècle. Or, à Saint-Cernin, ça se voit très bien. On peut suivre une sorte de construction en escalier d'est en ouest, en regardant les traces de pierre et le mélange de briques et pierre. C'est très, très sensible. Alors, dans les parties ouest en particulier.
Pour nos auditeurs, je reviens au rite lui-même. Pour nos auditeurs qui ont été des téléspectateurs des événements de consécration de Notre-Dame, après, on peut observer le rite, on tape à la porte.
Oui, hein. Oui.
Donc c'est un rite qui est assez immuable. Donc, mais Saint-Cernin, qui est le lieu finalement d'inhumation du saint, Saturnin, Saint-Cernin, il y avait un édifice plus ancien, je suppose.
Oui. Alors là, il y a beaucoup de discussions sur cela, mais d'après la vie de Saint-Cernin, qui aurait été écrite au 5e siècle, mais il y a des discussions à ce propos, je n'entre pas là-dedans, il y aurait eu un édifice qui aurait été construit par Saint-Exupère, un des successeurs, au début du 5e siècle, ou d'extrême fin du 4e, début du 5e siècle, qui aurait été ce qu'on appelle une basilique paléochrétienne. Alors là, le terme de basilique est un terme ambigu, et je vais faire un peu le prof, excusez-moi. Le terme de basilique paléochrétienne décrit une forme architecturale précise. Le terme de basilique que l'on utilise aujourd'hui pour Saint-Cernin, c'est un titre honorifique qui n'a aucun rapport avec la forme architecturale du monument. Mais la basilique paléochrétienne, ça, c'est un type architectural. En général, un édifice à 3 ou 5 vaisseaux terminé par une abside semi-circulaire. C'est un édifice de ce type qui est en place et c'est celui que l'on remplace à partir des années 1060, peut-être même, on a commencé à y penser quelques années avant, à partir de 1060, où on a lancé la construction de l'actuel édifice.
Qui est un édifice qui a quand même à la fois des proportions et un plan, l'organisation d'une circulation. Quel est le lien avec... le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, puisque Saint-Cernin est réputé être l'église qui renferme le plus de reliques.
Oui, alors c'est à l'heure actuelle, c'est l'édifice roman le plus grand d'Europe que l'on ait conservé. Il y en a eu de plus grands, il y a eu sans doute Saint-Martin de Tours et surtout Cluny. L'abbaye de Cluny, mais qui ont tous les deux disparu à 90%. Alors, Saint-Cernin est parfaitement adapté à trois fonctions. La fonction d'abord canoniale, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est réservée aux chanoines pour qu'ils puissent dire leurs heures. C'est la partie la plus orientale, le chœur et peut-être les parties orientales de la nef. Il y a ensuite le vaisseau central dans sa partie occidentale qui est là pour les paroissiens du bourg, pour les habitants du bourg. Et puis, il y a les collatéraux. Il y a 5 vaisseaux à Saint-Cernin. C'est très rarissime à l'époque romane. Hein. Je crois qu'il doit y avoir Saint-Martin de Tours, Cluny, Saint-Cernin et la Charité-sur-Loire.
Saint-Pierre de Rome, non ?
Alors, Saint-Pierre de Rome, oui. Mais Saint-Pierre oui. Était une basilique paléochrétienne. Oui. Je parle des édifices de l'époque romane. Hein.
D'accord. Non.
Oui, alors à Rome, il y en avait d'autres, hein, Saint-Paul-Orlemieux, par exemple. Bon, donc, les collatéraux mineurs, c'est-à-dire les plus, sont destinés à la circulation des pèlerins. Ils sont destinés à la circulation des pèlerins, ce qui permet aux pèlerins de circuler à l'intérieur de la basilique sans déranger le culte. Ils font, excusez-moi pour la formule, ils prennent la rocade, comme on dit à Toulouse, on ne dit pas le périphérique, on dit la rocade à Toulouse. Donc, dans les bras du transept également, il y a des collatéraux qui leur permettent de tourner, et quand ils arrivent sur la partie est des transepts, il y a déjà des chapelles dans lesquelles il y a des reliques, et où ils peuvent commencer à vénérer des reliques. Ensuite, ils passent dans le déambulatoire, il y a des reliques dans les chapelles du déambulatoire, et au milieu, dans l'abside, enfin, semi-enterré, Saint-Cernin, hein, qui se trouve là, le sarcophage.
Donc, lorsqu'on vient vénérer des reliques, en général, et vous venez de le dire, elles sont placées tout à fait à l'est. dans oui, la partie oui, la plus oui. à l'est. Et à Saint-Cernin, je pense que cette circulation qu'il y a dans l'intérieur du chevet, on appelle ça le tour des Corsins, ça veut dire qu'on fait référence, il y a les cryptes aussi, on fait référence aux très nombreuses reliques.
Oui.
Et il y a... Est-ce qu'il y avait une indication, parce que souvent dans les pèlerinages, on a cet outil, est-ce qu'il y avait un livret où les pèlerins pouvaient identifier les reliques qu'ils venaient vénérer ?
Oui, absolument. Alors, le Tour des Corsins, c'est quand même un nom qui arrive très tard, au XVIIe siècle. Hein. Mais justement, au XVIIe siècle, on a rédigé un petit livret dans lequel il y avait le dessin de tous les retables et de tous les autels des chapelles du déambulatoire, avec, au-dessous, la prière à réciter devant chacun des reliquaires. C'était vraiment extrêmement bien organisé. Mais ça, c'est beaucoup plus tard par rapport à la période romaine.
Oui.
Parce que les reliques se sont accumulées au fil des ans. On en découvre au fur et à mesure que le temps passe. On découvre de plus en plus de reliques.
Bon, édifice majeur pour la chrétienté. Et la venue du pape, qui est certainement liée à l'importance de l'édifice, mais n'est pas liée qu'à ça. Parce qu'on va voir que le pape... est venu dans une pérégrination dont on verra à la semaine prochaine qu'est-ce qu'elle a été et quel est un petit peu le contexte dans lequel elle s'est développée.
Merci Monsieur Pradalier.
Merci.
Bonne semaine à tous et puis pour ceux qui attendent avec impatience la semaine prochaine, je vous recommande aux éditions Midi-Pyrénéennes le petit livre de Monsieur Henri Pradalier, 1096, consécration de l'hôtel de Saint-Cernin. Dans cette magnifique collection cette année-là à Toulouse. Bonne semaine.